Déjeuner au Gotham Café. Un jour où j'étais à New York, je passais devant un restaurant dont l'aspect me plut beaucoup. À l'intérieur, le maître d'hôtel conduisait un homme et une femme à leur table. Le couple se disputait. Le maître d'hôtel croisa mon regard et m'adressa ce qui est resté, pour moi, le clin d'œil le plus cynique de l'univers. Revenu à mon hôtel, j'ai écrit cette histoire. Pendant les 3 jours où j'ai travaillé dessus, j'en ai été complètement possédé. À mes yeux, son moteur n'est pas tant le maître d'hôtel cinglé que les relations terrifiantes entre l'homme et la femme en instance de divorce. À leur manière, ils sont encore plus cinglés que lui. De loin. Revenant un jour de la maison de courtage où je travaillais, je découvris une lettre de ma femme posée sur la table de la salle à manger. Un simple mot, à vrai dire. Elle me quittait, disait-elle, parce qu'elle avait besoin d'être seule quelque temps. J'aurai de ses nouvelles par son avocat. Je restais effondré sur ma chaise, à lire et relire ce billet, incapable de croire ce qu'il m'apprenait. Au bout d'un moment, je me levais, allais dans la chambre à coucher et regardais dans le placard. Tous ses vêtements avaient disparu, à l'exception d'un survêtement et d'un sweatshirt gag sur lequel on lisait « blonde pulpeuse » en lettres pailletées. Je retournais à la table de la salle à manger, laquelle faisait en réalité partie du séjour dans cet appartement de 4 pièces, et relus encore les 6 phrases qu'elle m'avait laissées. Les mots n'avaient pas changé, mais le fait d'avoir vu le placard de la chambre à moitié vide avait amorcé le processus. Je commençais à y croire. Bel échantillon de littérature glaciale, ce billet. N'y figurait aucune formule du genre « je t'aime » ou « bonne chance » ou simplement « bien à toi ». « Prends soin de toi » était ce qu'elle avait écrit de plus chaleureux, avec son prénom griffonné en dessous, Diane. J'allais dans la cuisine me préparer un jus d'orange, et flanquais le verre par terre en voulant le saisir. Le liquide éclaboussa le bas des placards et le verre se brisa. Je savais que je me couperais si j'essayais de ramasser les morceaux tant mes mains tremblaient. Je les ramassais tout de même, et me coupais. En 2 endroits, mais peu profondément. Je n'arrêtais pas de me dire que c'était une blague, tout en prenant de plus en plus conscience du contraire. Diane n'était guère du genre blagueur. Le fait était, cependant, que je n'avais rien vu venir. Pas le moindre indice. Bêtise ou insensibilité de ma part. Au fur et à mesure que passaient les jours, et que je me remémorais les 6 ou 8 derniers mois d'un mariage qui datait de 2 ans, j'en arrivais à la conclusion que c'était les 2. Toujours est-il que ce soir-là, j'appelais ses parents à Pound Ridge et leur demandais si Diane était chez eux. « Oui, elle est ici, » me répondit sa mère, « mais elle ne veut pas vous parler, inutile de rappeler. » Elle me raccrocha au nez. 2 jours plus tard, j'eus un coup de téléphone de l'avocat de Diane, un certain William Humboldt, lequel, après s'être assuré qu'il parlait bien à Stephen Davis, se mit illico à me donner du Steve. Un peu difficile à croire, je l'admets, mais tel est le culot des avocats. Humboldt m'expliqua que j'allais recevoir des documents préparatoires dès le début de la semaine prochaine et me suggéra de rédiger un compte-rendu préliminaire à la dissolution de votre corporation domestique. Il me conseilla aussi de ne procéder à aucun mouvement de fonds intempestif et de conserver les reçus de tous les achats, même les plus insignifiants, que je pourrais faire au cours de cette période financièrement délicate. Il conclut en m'invitant à prendre un avocat. « Écoutez un instant, voulez-vous » demandai-je. J'étais assis à mon bureau, la tête basse, poing contre le front. J'avais les yeux fermés pour ne pas avoir à supporter l'éclat gris de mon écran d'ordinateur. J'avais beaucoup pleuré et l'impression d'avoir du sable dans les yeux. « Volontiers !» répondit-il. « Je ne demande pas mieux, Steve. J'ai 2 choses à vous dire. En premier lieu, que vous voulez sans doute dire... Préparez la rupture de votre couple et pas la dissolution de votre corporation domestique. Et si Diane s'imagine que je vais essayer de lui piquer ce qui lui revient, elle se trompe. « Bien !» répondit Humboldt, non pour signifier qu'il était d'accord, mais qu'il avait compris. « En second lieu, vous êtes son avocat, pas le mien, et je trouve condescendant et insultant de m'appeler par mon diminutif. Recommencez, je raccroche. Répétez-le-moi en face. » Et j'essaierai probablement de vous assommer. Steve, Mr. Davis, je crois que... Je raccrochais. Ce fut la première chose qui me procura un peu de plaisir depuis le moment où j'avais trouvé le mot de Diane sur la table, coincé sous son trousseau de clés. L'après-midi même, un collègue qui travaillait au contentieux me recommanda un de ses amis, avocat spécialisé dans les divorces. Ce dernier s'appelait John Ring et je pris rendez-vous avec lui pour le lendemain. Je quittai le bureau le plus tard possible, arpentai l'appartement de long en large pendant un moment, puis décidai d'aller au cinéma. Aucun film, cependant, n'était à mon goût. J'essayai la télévision sans plus de succès et me remis à tourner comme un lion en cage. À un moment donné, je me retrouvai dans la chambre, face à une fenêtre ouverte 14 étages au-dessus de la rue, à balancer toutes mes cigarettes, y compris un antique paquet de Viceroy retrouvé tout au fond d'un tiroir où il devait séjourner depuis au moins 10 ans, avant même qu'il ne me vienne à l'esprit qu'existait dans le monde une créature comme Diane Coslow en d'autres termes. Cela avait beau faire 20 ans que je fumais entre 20 et 40 cigarettes par jour, je ne me souviens d'aucune brusque décision d'arrêter, d'aucune protestation intérieure, même pas d'une simple remarque sur le fait que renoncer au tabac 2 jours après s'être fait larguer par sa femme n'était peut-être pas le moment idéal. Je balançais dans la nuit, sans autre forme de procès, la cartouche, la demi-cartouche et les 2 ou 3 paquets entamés qui traînaient dans l'appartement. Puis je refermais la fenêtre. Il ne me vint pas un instant à l'idée qu'il aurait été plus efficace de balancer le fumeur que le produit. Je n'étais pas du tout dans cette logique. M'allongeai sur le lit et fermai les yeux. Tandis que le sommeil me gagnait, je me dis que demain serait sans doute la pire journée de ma vie. Puis que je repiquerais à la cigarette dès midi. J'avais raison seulement sur le premier point. Les 10 jours suivants, période pendant laquelle les effets physiques du manque de nicotine atteignirent leur paroxysme, furent difficiles et souvent désagréables, mais pas aussi durs que je l'avais craint. Et si je fus sur le point de craquer 12 fois, non, 100 fois, je résistais toujours à la tentation. J'avais l'impression, par moments, que j'allais devenir fou si je n'en grillais pas une tout de suite. Et quand je croisais des gens la cigarette au bec dans la rue, je me sentais sur le point de hurler « Donne-moi ça, branleur, elle est à moi !» Le pire, c'était la nuit. Je crois, sans en être sûr, je n'ai gardé qu'un souvenir très flou de mes processus de pensée pendant la période qui suivait le départ de Diane, que je m'étais imaginé que je dormirais mieux si j'arrêtais de fumer, mais il n'en fut rien. Je restais parfois réveillé jusqu'à 3 heures du matin, mains croisées sous la nuque, à contempler le plafond et à écouter les sirènes et la rumeur grondante des poids lourds en route pour le centre. Dans ces moments-là, je pensais au magasin coréen, ouvert 24 heures sur 24 et situé pratiquement en face de mon immeuble, de l'autre côté de la rue. Je pensais à l'éclatante lumière des néons à l'intérieur, une lumière tellement brillante qu'on se serait presque cru dans une de ces expériences où l'on frôle la mort. Elle éclairait même le trottoir, entre les étalages que, dans 1 heure ou 2, 2 jeunes coréens coiffés de calots de papier rempliraient à nouveau de fruits. Je pensais à l'homme plus âgé derrière son comptoir, lui aussi coréen, lui aussi affublé de son calot de papier et aux formidables échafaudages de paquets de cigarettes devant lesquels il trônait. Échafaudages aussi volumineux que les tables de pierre que Charlton Heston ramène du mont Sinaï dans les 10 commandements. Je pensais que j'allais me lever, m'habiller, descendre là-bas, acheter un paquet ou 9 ou 10, m'asseoir à la fenêtre pour fumer une Marlboro après l'autre jusqu'à ce que le ciel s'éclaircisse à l'est et que le soleil se lève. Je ne l'ai jamais fait. Mais bien souvent, aux petites heures, je me suis endormi non pas en comptant des moutons, mais en égrenant des marques de cigarettes. Winston, Winston 100, Camel, Camel Filt, Camel Légère. Plus tard, alors que je commençais à voir les 3 ou 4 derniers mois de notre mariage sous un éclairage plus net, j'en vins à considérer que ma décision d'arrêter de fumer en un tel moment n'avait peut-être pas été aussi inconsidérée que je l'avais tout d'abord cru, et qu'en tout cas, elle n'avait pas été mauvaise. Je me demandais même si je n'avais pas fait preuve d'intelligence et de courage, moi qui, pourtant, ne brille pas particulièrement par l'une ou l'autre de ces qualités. C'est tout à fait possible. Il arrive parfois que nous nous élevions au-dessus de nous-mêmes. Toujours est-il que cela donna à mon esprit un sujet de préoccupation concret dans les jours qui suivirent le départ de Diane et offrit à mon malheur l'exutoire qui, autrement, lui aurait fait défaut. Je me suis demandé, bien entendu, si le fait d'avoir arrêté de fumer n'avait pas joué un rôle dans ce qui est arrivé au Gotham Café ce jour-là. Ce n'est pas exclu. Personne ne peut prédire les ultimes conséquences de ses actes, après tout, et rares sont ceux qui s'y essaient. La plupart du temps, nous faisons tout notre possible pour prolonger un moment de plaisir ou mettre un terme, fût-il provisoire, à ce qui nous fait souffrir. Et même si nous agissons pour la plus noble des raisons, le sang de quelqu'un tache trop souvent le dernier maillon de la chaîne. Humboldt me rappela 15 jours après la soirée où j'avais bombardé la 83e rue Ouest de mes cigarettes, s'en tenant strictement cette fois-ci à Mr. Davis. Il me remercia pour les divers documents dont je lui avais fait parvenir la photocopie par Mr. Ring et me dit que le moment était venu, pour tous les quatre, de nous retrouver autour d'une table. Tous les quatre, cela voulait donc dire que Diane serait là. Je ne l'avais pas revue depuis le matin du jour où elle m'avait quitté. Et même alors, je n'avais pas réellement vu car elle dormait, la tête enfouie dans l'oreiller. Je ne lui avais même pas parlé. Mon cœur se mit à accélérer et une veine à battre dans la main qui tenait le téléphone. « Il y a un certain nombre de détails à régler et un certain nombre de dispositions à prendre, et le moment me semble venu de mettre tout cela en route, » me dit Humboldt. Il eut un rire gras dans mon oreille, rappelant quelque adulte répugnant adressant une remontrance mineure à un enfant. « Il vaut toujours mieux laisser passer un peu de temps avant de remettre les intéressés en présence, une période de décompression en quelque sorte, mais à mon avis, un face-à-face à présent faciliterait, soyons clairs. » « Vous envisagez ? Un déjeuner ? Après-demain ? Pouvez-vous vous libérer après-demain ?»« Évidemment que tu peux, » sous-entendait son ton, « rien que pour la revoir, pour sentir ne serait-ce que le contact de sa main sur la tienne. Pas vrai, Steve ?»« Je n'avais rien de prévu à déjeuner jeudi, de toute façon. Ce n'est donc pas un problème. Si je comprends bien, je dois venir avec mon avocat ?» Il eut de nouveau son rire gras qui tremblotait dans mon oreille comme s'il émanait d'un tas de gelée fraîchement démoulée. « Pensez-vous à un endroit précis ?» Je me demandais un instant qui paierait ce déjeuner. Puis ma naïveté me fit sourire. Je mis la main à la poche pour prendre une cigarette et m'empalai un cure-dent sous l'ongle du pouce. Je fis la grimace, dégageai le cure-dent, cherchai une trace de sang, n'en vis pas, et me collai le bout du doigt dans la bouche. Je n'avais pas fait attention à la réponse de Humboldt. La vue du cure-dent m'avait rappelé avec acuité que je flottais sans cigarette sur les vagues du monde. « Pardon ? Je vous demandais si vous connaissiez le Gotham Café sur la 53e rue, entre Madison et Park. »« Non, mais je trouverais bien. Midi ?» J'eus envie de lui demander de dire à Diane de porter la robe verte à pois noirs fendue très haut sur le côté. « Je dois vérifier si mon avocat sera disponible. » Petite phrase détestable et prétentieuse qu'il me tardait de ne plus avoir à employer. « Bien entendu. Rappelez-moi si cela pose un problème. » Je passai un coup de fil à John Ring, lequel se lança dans suffisamment de considération pour justifier ses honoraires, qui, sans être scandaleux, n'étaient pas négligeables, avant de conclure qu'une rencontre lui paraissait en effet souhaitable à ce stade. Le téléphone raccroché, je me retrouvais en face de mon ordinateur à me demander comment j'allais faire pour revoir Diane sans avoir au moins grillé une cigarette auparavant. Le jeudi matin, Ring m'appela pour me dire qu'il ne pourrait pas venir et qu'il fallait annuler le déjeuner. « C'est à cause de ma mère, » m'expliqua-t-il. Il avait un ton fatigué. Elle est tombée dans ses foutus escaliers et s'est fracturée le col du fémur, chez elle, à Babylone. « Je dois y aller. Je vais prendre le train tout à l'heure à la gare de Pennsylvanie. » À l'entendre, on aurait cru qu'il s'apprêtait à traverser le désert de Gobi à dos de chameau et non à se rendre sur Long Island. Je réfléchis 2 secondes, tout en triturant un cure-dent neuf. 2 autres gisaient à côté du clavier de l'ordinateur, les extrémités effilochées. Je n'avais pas de mal à imaginer la pluie d'échardes minuscules qui me tombait dans l'estomac. Le remplacement d'une mauvaise habitude par une autre devait être inévitable. « Steven ?» « Vous êtes toujours là ?»« Oui. Je suis désolé pour votre maman, mais je tiens à ce déjeuner. » Il soupira. Quand il reprit la parole, il y avait dans son ton de la sympathie en plus de la fatigue. « Je comprends que vous ayez envie de la revoir, mais c'est précisément pour cette raison que vous allez devoir faire très attention. Ne pas commettre d'erreur. Vous n'êtes pas le milliardaire Donald Trump, et elle n'est pas Ivana la mégalo. Mais il ne s'agit pas d'un divorce à l'amiable non plus. » où tout se règle en deux lettres recommandées. Financièrement, vous vous en êtes très bien sorti, Steven, en particulier au cours des 5 dernières années. Je sais, mais et pendant 3 de ces années, me coupa Ring, endossant sa voix de prétoire comme un surplis, Diane Davis n'a été ni votre femme, ni votre compagne, ni même, en cherchant beaucoup, votre collaboratrice à aucun titre. Elle n'a été que Diane Coslow de Pound Ridge, et elle ne vous précédait pas en répandant des pétales de rose ou en soufflant dans une trompette. Non, mais je veux la voir. Et si je lui avais dit ce que je pensais vraiment, il en aurait piqué une crise. Je voulais voir si elle n'allait pas porter la robe verte à pois noirs, parce qu'elle savait fichtrement bien que c'était celle que je préférais. Il soupira à nouveau. Impossible de continuer cette discussion, ou je vais rater mon train. Il n'y en a pas d'autre avant le début de l'après-midi. Eh bien, allez prendre votre train. Je vais partir, mais avant, je vais faire une dernière tentative pour que vous compreniez bien la situation. Une entrevue comme celle-ci a tout d'une joute. Les avocats sont les chevaliers. Le client est réduit, dans ces cas-là, à l'état d'écuyer du duc de la Basoche, tenant la lance d'une main et les rênes du cheval de l'autre. À son ton, je compris que ce n'était pas la première fois qu'il employait cette image et qu'il l'aimait bien. Vous êtes en train de me dire que, puisque je ne serai pas là, vous allez sauter sur mon palefroy et galoper vers l'adversaire sans lance, sans armure, sans écu et probablement sans même une coquille sur les couilles. « Je veux la voir, » répétais-je. « Voir comment elle est, l'allure qu'elle a. Et si vous n'êtes pas là, Humboldt ne voudra peut-être même pas parler. « Oh, ce serait trop beau !» répliqua-t-il avec un petit rire cynique. « Je ne vais pas réussir à vous convaincre, pas vrai ?»« Non. »« Bon. Dans ce cas, j'aimerais que vous suiviez mes instructions. Si jamais je découvre que vous ne les avez pas respectées et que vous avez saboté le boulot, je risque de trouver plus simple d'abandonner votre défense. Vous me suivez ?»«
Je vous suis. » »«
Bien. Pour commencer, ne lui criez pas après, Steven. C'est le point fondamental numéro 1. Vous comprenez bien ça ?»«
Oui. »
Je n'allais pas lui crier après. Si j'avais été capable d'arrêter de fumer le surlendemain de son départ et de tenir, je me sentais capable de tenir pendant une centaine de minutes et la procession entrée, plat, dessert, sans la traiter de salope. « Ne criez pas après son avocat. C'est le point fondamental numéro 2. D'accord. Ne me dites pas simplement « d'accord ». Je sais que vous ne l'aimez pas et qu'il ne vous aime pas beaucoup, lui non plus. Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Comment pourrait-il avoir une opinion sur moi, bonne ou mauvaise ? Ne soyez pas idiot. On l'a payé pour qu'il en ait une mauvaise, que dis-je, exécrable, un point c'est tout. Alors, dites-moi que vous êtes d'accord en le pensant. D'accord, et je le pense. C'est mieux. Il ne m'avait pas répondu, lui, comme s'il pensait à ce qu'il disait, mais plutôt comme un type qui consulte sa montre en même temps. « N'abordez aucune question de fond, » reprit-il. « Ne discutez d'aucun accord financier, pas même en employant le conditionnel du genre « Qu'est-ce que tu penserais si ?»« Tenez-vous-en à l'aspect sentimental. S'il commence à râler et à vous reprocher d'avoir accepté ce rendez-vous, si vous ne vouliez pas discuter de questions pratiques, répondez-leur simplement ce que vous m'avez dit, que vous vouliez juste revoir votre femme. Entendu ? S'il vous laisse en plan à ce stade, le supporterez-vous ?
Oui. »
J'ignorais si je le supporterais ou non, mais il me semblait que oui, et je savais aussi que Ring ne voulait pas rater son train. « En tant que votre avocat, je vous déclare que vous commettez une grave erreur tactique et que si jamais cela nous pète au nez devant le tribunal, je demanderai une suspension de séance rien que pour vous rappeler que je vous avais averti. Est-ce bien clair ?»«
C'est clair. » »«
Mes amitiés à votre maman. » »«
Ce soir, peut-être. »
J'avais l'impression qu'il devait rouler des yeux à présent. « Je ne saurais pas ce qu'il en est avant.
Faut que j'y aille, Steven. »«
Très bien.
J'espère qu'elle vous posera un lapin. »«
Je sais que vous en rêvez. » Il raccrocha pour aller voir sa mère à Babylone, à l'autre bout de Long Island. Quand je le revis, plusieurs jours plus tard, il y avait quelque chose entre nous dont il n'était pas possible de parler. Pourtant, je crois que nous l'aurions pu si nous nous étions un peu mieux connus. Je le compris à son regard et, sans doute, le comprit-il au mien. L'idée que si sa mère ne s'était pas fracturé le col du fémur dans son escalier, Il aurait pu se retrouver mort, tout comme William Humboldt. Je partis à pied du bureau à 11h15 pour arriver une demi-heure plus tard au Gotham Café. Cette avance avait pour but de me tranquilliser. En d'autres termes, je voulais être sûr que l'établissement était bien tel que me l'avait décrit Humboldt. Je suis comme ça, et je l'ai toujours plus ou moins été. Diane en parlait comme de mon côté obsessionnel au début de notre mariage, mais je pense qu'elle avait fini par comprendre. Je ne fais pas facilement confiance aux compétences des autres, c'est tout. J'admets volontiers que c'est un trait de caractère agaçant, et je voyais bien qu'il la rendait folle, mais je ne l'aimais guère moi-même, ce qui lui a toujours échappé, semble-t-il. On a plus de mal à changer certaines choses que d'autres, et quelques-unes ne changent jamais, en dépit de tous nos efforts. Le restaurant était bien là où Humboldt m'avait dit qu'il serait, signalé par une marquise verte, portant le nom Gotham Café en lettres capitales. La silhouette des gratte-ciels new-yorkais en blanc ornait les vitrages. Style cantine chic à la mode. L'air parfaitement ordinaire, en somme, fort peu différent des quelques 800 établissements coûteux qui pullulaient dans le centre. Le lieu de rendez-vous reconnu et l'esprit momentanément tranquille, du moins sur ce point, sinon j'étais tendu comme une corde de piano à l'idée de revoir Diane et je crevais d'envie de fumer. Je remontais jusqu'à Madison et musais un quart d'heure dans un magasin d'articles de voyage. Je ne pouvais me contenter de faire du lèche-vitrine. Diane et Humboldt, en arrivant, auraient pu me voir. Diane était capable de me reconnaître de dos, à mes épaules et à la manière dont tombait mon manteau, et il n'en était pas question. Il ne fallait surtout pas qu'ils sachent que j'étais arrivé en avance. De quoi aurais-je eu l'air ? De quémander ? J'étais donc entré. J'achetais un parapluie, dont je n'avais nul besoin, et quittais la boutique à l'instant précis où les deux aiguilles de ma montre se rejoignaient à la verticale, sachant ainsi que je ferais mon entrée au Gotham Café à 12h05. Comme le disait mon père, « Si tu as besoin d'être là, arrive 5 minutes à l'avance. » Si ce sont eux qui ont besoin de toi, arrive 5 minutes en retard. J'en étais au stade où je ne savais pas trop qui avait besoin de quoi, ni pourquoi, ni pour combien de temps, mais la méthode de mon père me paraissait la plus sûre. Si Diane avait été seule, je serais arrivé pile à l'heure. Non, je me raconte des histoires. Si Diane avait été seule, je serais arrivé à 11h45 au restaurant et j'aurais patienté. J'attendis quelques instants sous l'auvent, regardant à l'intérieur. La salle était bien éclairée, un bon point en sa faveur. Rien ne m'indispose plus qu'une salle de restaurant, dont la pénombre est telle qu'on ne distingue ni ce que l'on mange, ni ce que l'on boit. Des toiles impressionnistes flamboyantes ornaient les murs. Elles n'étaient pas identifiables, mais c'était sans importance. Avec leurs couleurs primaires et leurs grands coups de pinceau exubérants, elles frappaient l'œil comme un excitant visuel. Je cherchais Diane des yeux et aperçus une femme qui lui ressemblait, installée à une table près du mur, à mi-chemin d'une salle tout en longueur. Difficile à dire, cependant, vu qu'elle me tournait le dos et que je n'ai pas son talent pour reconnaître les gens dans des circonstances difficiles. Mais le type chauve et corpulent, assis à la même table qu'elle, avait tout à fait l'air d'un Humboldt. Je pris une profonde inspiration, ouvris la porte et entrai. On distingue 2 stades dans le sevrage du tabac, et je suis convaincu que c'est au cours du 2e que se produisent le plus souvent les récidives. Les symptômes physiques durent entre 10 et 15 jours, après quoi la plupart d'entre eux, sueur froide, maux de tête, tressaillements musculaires, pulsations douloureuses dans les yeux, insomnie, irritabilité, disparaissent. Vient ensuite une période de sevrage psychologique qui est beaucoup plus longue. Elle peut se caractériser par un état de dépression plus ou moins affirmé, un sentiment de deuil, une anhédonie, un électroaffectrogramme plat en d'autres termes, des pertes de mémoire, voire même des périodes passagères d'une sorte de dyslexie. Je suis au courant de tout cela grâce à mes lectures. Il m'a paru très important de m'informer après ce qui s'était passé au Gotham Café. Sans doute pourrait-on dire que mon intérêt pour la question se situait quelque part entre le domaine du passe-temps et le royaume de l'obsession. Le symptôme le plus courant du 2e stade est une sensation de légère irréalité des choses. La nicotine améliore les transferts synaptiques et la concentration, autrement dit, dégage les chemins de l'information dans le cerveau. Phénomène nullement important et nullement indispensable pour réfléchir activement, même si tous les accros à la cigarette pensent le contraire. Mais qui vous laisse, lorsqu'il disparaît avec le sentiment, diffus dans mon cas, que le monde a incontestablement perdu de sa substance. J'ai très souvent éprouvé l'impression, par exemple, que les gens, les voitures et les petites scènes que j'observais dans la rue, que tout cela se déroulait en fait sur un écran, un système contrôlé en coulisses par des machinistes invisibles faisant tourner de gigantesques roues et de gigantesques tambours. Sensation aussi d'être légèrement, mais en permanence, sous l'effet de l'herbe, car accompagné d'une impression d'impuissance et d'épuisement moral, du sentiment que les choses n'avaient qu'à suivre simplement leur cours, pour le meilleur ou pour le pire, car vous, c'est-à-dire moi, bien entendu, étiez fichtrement trop occupé à ne pas fumer pour pouvoir faire autre chose. Je ne sais trop si tout ceci s'applique à ce qui est arrivé, mais je pense cependant qu'il y a un rapport, car je suis à peu près certain d'avoir soupçonné que quelque chose clochait chez le maître d'hôtel dès l'instant où je l'ai vu, et d'en avoir été sûr dès l'instant où il m'a adressé la parole. Âgé d'environ 45 ans, il était grand, mince, dans son smoking du moins. En vêtements ordinaires, il aurait été squelettique, et portait une moustache. Il tenait un menu relié en cuir à la main. En d'autres termes, il sortait tout droit des bataillons de maîtres d'hôtel qui règnent sur les bataillons de restaurants chics de New York. Mis à part son nœud papillon, qui était de travers, et une tache sur sa chemise, juste au-dessus du dernier bouton du veston. On aurait dit de la sauce ou une projection d'une gelée de couleur sombre. De plus, quelques mèches rebelles se dressaient sur son crâne, provocantes, me faisant penser au personnage d'Alfalfa dans la vieille série Little Rascals. Je faillis éclater de rire, j'étais très nerveux, ne l'oubliez pas, et je dus me mordre les lèvres pour me retenir. « Oui, monsieur, » dit-il lorsque je m'approchais de son pupitre avec un accent que je ne saurais retranscrire. « Tous les maîtres d'hôtel de New York ont un accent, mais on ne sait jamais au juste lequel. » Une fille avec laquelle j'étais sorti dans le temps et qui ne manquait pas d'un certain sens de l'humour, mais qui, hélas, était aussi sérieusement accro à des drogues fortes, m'avait raconté une fois qu'ils provenaient tous de la même petite île et parlaient donc tous la même langue. Laquelle, lui avais-je demandé, le haut nasal première époque. J'avais éclaté de rire. Ce souvenir me revint tandis que je jetais un regard en coulisses à la femme que j'avais repérée de l'extérieur. J'étais presque sûr à présent que c'était bien Diane, et dut de nouveau me mordre les lèvres. Si bien que je prononçais le nom de Humboldt comme si c'était un éternuement étouffé. Un froncement vint contracter le front haut et blême du maître d'hôtel. Il me fusilla du regard. Ses yeux, qui m'avaient paru bruns quand je m'étais approché, semblaient maintenant noirs. « Je vous demande pardon, monsieur. » Encore cette façon de prononcer « monsieur » de manière à la fois obséquieuse et insultante. Ses doigts, aussi blêmes que son front et longs comme ceux d'un pianiste, se mirent à tapoter nerveusement sur le menu. Le gland en passementerie qui en dépassait comme un marque-page baroque commença à se balancer. « Humboldt, » dis-je, « une table de 4 personnes. » Je n'arrivais pas à détacher mes yeux de son nœud papillon tellement de travers que la pointe gauche venait presque lui caresser le menton, ni de la tache sur sa chemise, par ailleurs d'un blanc neigeux. De plus près, elle ne m'évoquait plus de la sauce ou de la gelée, mais du sang plus ou moins coagulé. Il consulta le registre des réservations, tandis que la mèche hérissée s'agitait au-dessus du reste de ses cheveux, impeccablement lisse. On voyait le cuir chevelu dans les sillons laissés par le peigne, et il avait une pellicule sur l'épaule. Je songeais qu'un bon maître d'hôtel aurait certainement flanqué à la porte un serveur qui se serait présenté dans une tenue aussi négligée. « Ah, oui, monsieur !» J'avais eu droit à encore un monsieur en français, mais je vous dis pas l'accent. « Vos amis sont... » Il s'interrompit brusquement. Son regard devint encore plus aigu, si c'était possible. Il me toisa de la tête aux pieds. « Il est interdit d'amener des chiens ici !» dit-il d'un ton sec. « Combien de fois vous ai-je dit que vous ne pouviez amener ce chien ici ?» Il ne criait pas vraiment, mais il avait parlé assez fort pour que plusieurs des personnes attablées à proximité s'arrêtent de manger et tournent la tête, intriguées. Je jetai moi-même un coup d'œil circulaire. Il avait parlé avec tant de conviction que je m'attendais à voir un chien, le chien de quelqu'un, mais il n'y avait personne derrière moi, et en tout cas aucun chien. Pour je ne sais quelle raison, je me dis alors qu'il parlait peut-être de mon parapluie, que si ça se trouvait dans l'argot de l'île des maîtres d'hôtel. Chien voulait dire parapluie, en particulier lorsqu'un client trimbalait un quand le risque de pluie était à peu près nul. Je revins au maître d'hôtel, mais celui-ci s'éloignait déjà de son pupitre, mon menu à la main. Sans doute dut-il sentir que je ne le suivais pas, car il se retourna, les sourcils légèrement arqués. Son visage n'exprimait plus qu'une question courtoise. « Voulez-vous avoir l'obligeance de me suivre, monsieur ?» Ce que je fis. Quelque chose clochait sérieusement chez le bonhomme, c'était clair. Mais je le suivis tout de même. Je n'avais ni le temps ni l'esprit à me mettre à épiloguer sur ce qui n'allait pas chez le maître d'hôtel d'un restaurant où je n'avais jamais mis les pieds et où je ne les remettrais probablement jamais. Mon problème, c'était Diane et Humboldt, et arrêter de fumer. Le maître d'hôtel du Gotham Café n'avait qu'à résoudre lui-même le sien, chien compris.